Brasero, brassage radio, 10 juillet, il pleut, alors on en profite, on va parler manif et répression, tant qu'à y être, hein. Tant qu'à s'emmerder en été, donc voilà, que du bon. On va parler du droit de manifester, en fait, le tour de cette petite blague qui s'appelle droit de manifester, une sorte d'oxymore, on pourrait dire. Donc, pour parler de ça, et ce qui va constituer un peu le noyau dur de cette émission, c'est une archive d'il y a 6 ans, en 2011, une manifestation qui s'était faite entièrement entourée par la police, empêchée de se déplacer et d'avoir lieu.
Ouais, une nasse, quoi.
Bah ouais. C'est ça, sauf que c'était pas encore une nasse, c'était la première fois. Alors pour nous ici, on avait été comme un peu interloqués, voire carrément indignés, on n'appelait pas ça une nasse, on s'était fait entourer par la police. Maintenant on s'est habitué, on a trouvé un nom, et on dit « Ah tiens, j'étais dans la nasse ». Et on commence à prendre le pli de déposer des manifestations en espérant qu'elles soient autorisées, ou alors de faire des manifestations sans autorisation, et on appelle ça une manif sauvage. Avant c'était juste une manif. Bon voilà, on va essayer de déplier tout ça. C'est l'occasion aujourd'hui de parler de tout ça.
Ah, pourquoi caméra sans répit, mépites-tu du haut de ton poteau? Pourquoi me fliques-tu? Y'a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on en a ras le cul. Ah, pourquoi caméra sans répit, mépites-tu du haut de ton poteau? Pourquoi me fliques-tu? Y'a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on en a ras le cul. Ah, pourquoi caméra sans répit, mépites-tu du haut de ton poteau? Pourquoi me fliques-tu? Y'a des flics qui tuent, pourquoi ne les vois-tu? Nous en bas dans la rue, on en a ras le cul.
Brasero, approche-toi du micro.
Alors si on revient un petit peu au fondement de cette idée de droit de manifester, on revient au mythique article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors il y en a eu plein des déclarations des droits de l'homme et du citoyen. On parle de celle de 1793 qui dit « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». On a manqué un peu de réverb sur cette déclaration, mais vous sentez bien le bon. Alors, évidemment, 2 ans plus tard, dans la déclaration de 1795, tout cela disparaît, faut pas déconner non plus. Mais quand même, la résistance à l'oppression est l'un des droits promulgués par la fameuse déclaration qu'on dit de 1789, mais qui a été modifiée au-delà. En même temps que la liberté, la propriété, la sûreté, etc. Tous ces droits qui font conflit aujourd'hui. Donc, de ce fait, le droit de manifester est constitutionnel. Il est vraiment à la base de notre droit. Toutefois, compte tenu du possible impact sur l'ordre public, les manifestations ne sont jamais totalement libres. Et oui, on va avoir toute une série de droits qui vont s'accumuler. La déclaration préalable, hein, toujours en vigueur, c'est une déclaration préalable. C'est-à-dire qu'on doit déclarer et... C'est possible que ça soit autorisé ou pas, mais on n'a pas besoin d'attendre que ça soit autorisé. Le seul impératif, c'est de le déclarer depuis 1935. Mais on a aussi de nombreux textes relatifs à la sécurité qui prévoient de restreindre, donc pour éviter que ça dégénère en insurrection violente. Manifester, oui. Insurrectionner, non. Par exemple, interdiction possible du port de toute arme par destination. La peine complémentaire d'interdiction de manifester pour certains manifestants ou manifestantes déjà condamnés pour violence ou destruction. Ou l'interdiction de dissimuler son visage en son sein, donc en sein des manifestations ou à ses abords.
Les armes par destination, c'est à peu près tout et n'importe quoi, non ?
Voilà, c'est ça qui est bien, c'est la destination est décidée par la personne qui vous juge.
La personne donc, destinée.
La personne qui aurait pu être destinataire, justement. Donc un morceau de sucre, une carte, et donc on a vu ça, on a vu des bidons, on voit ça dans les procès, divers et variés, comment tout et rien et n'importe quoi peuvent être une arme par destination, ce qui en fait permet l'arbitraire sur le bord des manifestations, tout simplement. Mais de toute façon, l'embrouille, au final, c'est cette idée de droit de manifester. L'État qui organise la domination et l'exploitation nous accorde le droit de nous en plaindre. Grand seigneur, magnanime, c'est toujours la fiction d'une entité neutre qui viendrait équilibrer les différents intérêts présents dans la société. Alors ici, on ne va pas prendre ces vessies pour des lanternes, mais on ne va pas non plus jouer les indifférents. Le droit est finalement la concrétisation d'un certain rapport de force, d'une situation de confrontation. En cela, il va indiquer quelque chose, il va nous montrer une situation... Et c'est de ça dont on va parler finalement. C'est intéressant à aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est de ce droit de manifester et surtout à la réalité de nos manifestations aujourd'hui?
On
Alors, il faut faire un peu attention avec cette histoire de droit de manifester, ou en tout cas avec ce qui se passe dans les manifestations, parce qu'on a toujours le risque d'être un peu linéaire, d'essayer d'avoir un truc qui soit linéaire et cohérent, donc qui irait soit du mieux au pire, soit du pire au mieux. Soit ça s'améliore, on a plus de liberté, soit on en a un point. Alors que je pense que c'est quelque chose qui va et qui vient, et c'est compliqué d'en saisir vraiment en termes de ça s'empire ou pas, parce qu'on trouve toujours des moments, je veux dire, on se rappelle de Sharon, c'est quand même une manifestation où il y a pas mal de gens qui sont morts, et pourtant il n'y a pas de flashball, il n'y avait pas la BAC, il n'y avait pas les interdictions de manifester, etc. Alors, je crois qu'il n'y a pas grand monde pour s'en souvenir, mais à un moment, les dragons chargés à cheval dans les manifestations et tapés soi-disant du plat du sabre, j'imagine qu'il devait y avoir quelques cas de c'était pas tout à fait le plat, mais si, monsieur, c'était le plat, mais il était très coupant. Donc voilà, c'est compliqué de savoir. Mais on va essayer de voir comment ça se passe aujourd'hui, où moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une période de durcissement, de montée en puissance de la violence étatique. Alors c'était peut-être pas mieux avant, mais en tout cas, on peut dire que depuis le milieu des années 90, il y a vraiment quelque chose qui va en se durcissant et qui correspond aussi à une remontée de la conflictualité. Alors bien sûr, il y a des changements techniques, législatifs et politiques qui ont considérablement durci le rapport à la protestation et de manière plus générale, la répression dans la société. Et ça, je pense que c'est important, c'est souvent oublié, notamment... On va parler tout à l'heure du rapport d'Amnesty International ou de différents, quand on parle de criminalisation de la protestation, criminalisation du mouvement social. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans la société depuis le milieu des années 90. C'est une très forte répression dans l'ensemble de la société. Les lois sécuritaires vont s'accumuler au fur et à mesure. Et on ne peut pas séparer vraiment répression de la protestation et répression de la dite délinquance. Il n'y a pas d'un côté une police et une justice désirable qui participeraient au bien-être de la population en éloignant le danger. Et de l'autre, une police et une justice détestable qui attaqueraient nos libertés. Le maintien de l'ordre, c'est un ordre au singulier. Alors bien sûr, il y a des actes condamnables, des comportements inacceptables, des crimes abominables, mais à mon avis, à chaque fois que la justice et la police s'en mêlent, elles ne résolvent rien, et au mieux, elles sont l'instrument d'une vengeance. Bref, c'est certainement un autre sujet. On va venir à cette histoire d'Amnesty International.
C'est l'état d'urgence qui menace les libertés aujourd'hui. Ce n'est pas le terrorisme, je le répète. L'état d'urgence signifie l'abandon de l'état de droit. Nous combattons la démocratie avec les armes de la République, la force de nos valeurs, nos forces de police et de gendarmerie, notre administration. Et je tiens à leur rendre ici hommage, en plus du courage, de la lucidité et du discernement dont les forces de sécurité intérieure font preuve tous les jours pour assurer la sécurité des policiers et des gendarmes, en exposant la vie, souvent, des Français.
Voilà, Cazeneuve. Donc, Amnesty International, je vous le disais, a sorti un rapport en mai 2017 qui s'inquiète justement de la restriction du droit de manifester. Mais à partir de ce point, qui considère l'État, sa police et sa justice comme les garants des libertés, justement. Alors, il faudrait que l'État, à la fois, fasse cesser les violences dans les manifestations et garantisse le droit de manifester et d'informer. Voilà. On parle alors d'un usage disproportionné de la force. Alors je me demande, qu'est-ce qu'un usage proportionné ? Passer la loi travail sans faire trop de dégâts ? Donc, il est vrai que le fait qu'on soit dans un état d'urgence depuis 605 jours aujourd'hui, au 10 juillet, induit cette lecture d'une situation exceptionnelle. Les mesures d'interdiction manifestées qui sont tombées depuis la COP21, soit individuellement sur des personnes, 639 quand même, soit sur des manifestations ou rassemblements, 155, renforcent encore cette impression d'un rapport de cause à effet. Pourtant, personnellement, sans nier que le rôle de l'état d'urgence a pu avoir dans le durcissement actuel, je pense qu'on peut repérer plus en amont cette évolution au final. Encore une fois, la fin des années 90, on a eu la loi de sécurité intérieure, la loi de sécurité quotidienne, etc. Et finalement, le développement d'une police de choc dans les quartiers populaires. Les brigades anticriminalité, brigades de jour, brigades de nuit, hein, bac de jour, bac de nuit, bac ceci, bac cela, associés à des compagnies républicaines de sécurité, des CRS, qui ne sont plus simplement appelés sur des manifestations, mais qui sont disposés, déployés sur le territoire, hein, pour utiliser un langage militaire de plus en plus présent, pratiquent un maintien de l'ordre ultra-violent, renforcé par un arsenal législatif toujours plus important et un arsenal concret d'armes à létalité dite réduite. Lanceurs de balles de défense, tonfa, flashball, grenades en tout genre. etc. Et bien sûr, une impunité toujours plus grande dans leurs interventions. Alors, avec ça, et je parlais d'arsenal législatif, et c'est important, la multiplication des peines alternatives à la liberté ou alternatives à l'enfermement, comme eux veulent les appeler, font exploser le nombre de personnes incarcérées ou sous main de justice, bracelets, semi-liberté, sursis mis à l'épreuve, etc. En janvier 2016, on comptait 249 298 personnes prises en charge par l'administration pénitentiaire. Et il y en a seulement 70 000 qui sont en prison. Seulement, excusez-moi, mais...
Oui, ça en fait quand même 180 000 qui sont dehors, mais qui sont
quand même
en liberté surveillée.
Voilà, en liberté surveillée, avec toute une série de dispositifs. C'est-à-dire qu'on a eu cette explosion complètement délirante ces 15 dernières années de personnes condamnées. Et de personnes condamnées qui plus est, sont d'autant plus condamnables qu'elles ont été condamnées, vu qu'on sait que le casier judiciaire est un des éléments les plus importants dans les condamnations. Donc, qui a été condamné sera condamné. Donc, c'est une montée en puissance de la police et de la justice qui a progressivement touché aujourd'hui la protestation sociale. Et j'ai l'impression que si on sépare ces deux pans, finalement, ça nous tombe du ciel. Alors, on a envie de trouver des raisons. Ah, c'est l'état d'urgence, etc. Alors, bien sûr, l'état d'urgence y participe, mais finalement, pas que. Et on va voir qu'au final, ça vient même un peu d'avant. L'état d'urgence vient finalement finaliser quelque chose.
Est-ce que l'état d'urgence sera un peu la continuité logique de ce qui se passe depuis un moment, quoi ?
Ouais, je pense que de toute façon, il y a une rupture avec cette histoire d'attentat. Donc l'état d'urgence n'était pas prévu, mais on aurait pu continuer, en tout cas sur les manifestations, sur la police. L'état d'urgence, il devient... en dehors du rôle réel qu'il a eu, hein, notamment dans la répression accrue des personnes soupçonnées d'être islamistes ou simplement musulmans, au final, hein, il y a eu quand même. Il sert un peu de rideau de fumée idéologique pour masquer des évolutions qui étaient en dehors de l'état d'urgence. Et surtout, je pense qu'il n'y a pas de raison, en fait, d'isoler d'un côté la conflictualité sociale de tous les jours, qu'on appelle souvent délinquance, avec quelque chose qui serait du social, entendu comme la page société des journaux. Donc ça ne marche pas comme ça. Donc, et justement, ce sur quoi on va revenir là, c'est une manifestation qui a eu lieu le 17 décembre 2011 à Toulouse. Alors revenons un petit peu sur l'histoire de cette manifestation, parce que c'est intéressant. Le 15 novembre précédent, hein, toujours 2011, police et gendarmerie déboulent en nombre, à l'aube, dans plus de 7 lieux différents dans Toulouse. Ils vont arrêter un peu plus de 12 personnes, une vingtaine je crois, je ne me rappelle plus. La raison de cette opération, hop, on revient encore en arrière, c'était en 2010-2011, une action de soutien suite à une émeute dans une prison pour mineurs à Lavaur. Alors, ces EPM, hein, ces établissements pénitentiaires pour mineurs, ont été faits aussi dans cette période-là, c'est-à-dire qu'on a cherché à incarcérer encore plus les mineurs en les sortant des quartiers pour mineurs des grands et en leur faisant des prisons pour mineurs qui sont censées, du coup, être plus aptes à incarcérer des mineurs. Et du coup, on a plus incarcéré de mineurs. Comme à chaque fois, on agrandit la surface clôturée et donc le nombre de personnes qui sont ensuite incarcérées. Donc il y avait eu une émeute dans cette prison, hein, donc ça prouve bien que c'est une prison, il y a des émeutes. Les jeunes gens incarcérés avaient protesté contre des conditions de détention assez dégueulasses, et s'étaient pris les ERIS, les équipes de surveillants cagoulés, suréquipés, formés à mater par la violence, les révoltes carcérales, encore une invention de la fin des années 90, du début 2000. C'est-à-dire encore une fois un nouveau corps de police, une espèce de bac pénitentiaire, on va dire, avec des volontaires qui sont formés à casser violemment des émeutes carcérales, donc sur des mineurs de moins de 18 ans. Donc forcément, cela à l'extérieur avait révolté pas mal de monde et quelques personnes avaient décidé d'aller le dire directement à l'administration en charge de cet établissement pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse. Alors pas tout à fait en charge, mais elle intervient et elle est stigmatisée comme parce qu'elle intervient dans ces espaces-là, elle est légitime. Donc ces locaux à la beige vont être envahis et il va y avoir quelques dégâts, des liquides nauséabonds déversés un petit peu, voilà. Bon, une action hein, finalement assez, quelques inscriptions à l'intérieur assez rapides et qui avait fait un peu de bruit à l'époque. Et ça s'inscrivait dans une série de gestes de protestation contre ces EPM et en soutien aux mutins qui avaient lieu dans la région. Il y a eu des diffs de tracts, des permanences, etc. Et suite à ça, la répression a été assez dingue, quelques mois ensuite, hein, puisque la descente de flics dont j'ai déjà parlé a été assez délirante. Et suite à ça, 4 personnes partent en détention provisoire, après 48 heures de garde à vue. Oui, 48 heures de garde à vue, un peu moins, un peu plus. Une personne se retrouve sous contrôle judiciaire, enfin une dernière en témoin assisté. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense au final. Après plus de 5 ans d'attente, il y aura un procès qui donnera des peines assez minimes, si on peut parler de peines minimes, mais en tout cas, relativement à la violence déployée à l'époque. Ça a couvert les détentions provisoires, qui ont été de quasi 2 mois, et une amende assez conséquente pour une des personnes. Il y a finalement 3 personnes qui vont être relaxées totalement des charges pesant contre elles, qui auront fait de la détention provisoire pour rien. Voilà. Donc il n'y a même pas eu une preuve vraiment factuelle qui a été amenée. Ça a été quelque chose assez déballonné au final. Donc tout ça pour dire que la relation à la répression, parce qu'on va parler de cette manifestation, donc du 17 décembre 2011, et c'est la première NAS. Là, c'est un reportage réalisé à chaud par Cécile, qui à l'époque travaillait à Canal Sud. Et nous, ce qu'on sent à ce moment-là, après cette énorme descente, c'est une répression, mais vraiment complètement délirante. Donc, il y a des gens qui sont incarcérés en prison après une action qui est une action de base, quoi. Je veux dire, c'est de protestation, quoi. On se retrouve dans cette manifestation, mais on va la raconter et on reviendra ensuite après une petite pause musicale.
I played a lot of places and I'll play them all again. And everywhere I go I hear the same old thing again. Somebody dies in police custody. Soon there are questions from the family. At first the situation makes the lawmen look so filthy, but they investigate themselves and it turns out that they're not guilty. Hey, hey, Taloi Police, it means the same thing now as yes. Let's go! Ian Bush's family didn't know he was a killer when Constable Kessler picked him up for an open can of Miller. The video at the station house had somehow got erased, but the bull was there so we could know exactly what took place. The boy jumped on his back, but the cop was quick instead. He reached around and shot him right in the back of the head. Constable Kessler would not demonstrate just how this thing was done. If you think that it's impossible, then the coroner's not alone. Well, hey, hey, Taloi Police, it means the same thing now as yesterday. Out of your houses, into the streets, everybody say, fuck the police. Didi! Down in the holding cells, 'cause there's stuff that happens there that just don't happen nowhere else. Healthy people dying from a sudden heart attack, men who hang themselves with their hands tied behind their back. There's lots of good and brave police, it must be true, I guess. It's brave to work with a murderer sipping coffee by your desk. Well, hey, hey, Taloi Police, it means the same thing now as yes.
Écoute-moi zéro. France, j'étais principalement près de la place Wilson, à la sortie du métro Jean Jaurès, devant la FNAC, pour une manifestation en fait, en soutien aux inculpés du 15 novembre.
Le 17 décembre, je suis allé à Jean Jaurès pour participer à la manifestation contre la répression.
J'étais à Toulouse sur rendez-vous au métro Jean Jaurès pour manifester en soutien aux personnes qui ont été incarcérées à la maison d'arrêt de Seix en provisoire, avec beaucoup de chefs d'inculpation, mais sans aucune preuve, sans rien. Donc c'était pour demander leur libération.
Le 17 décembre 2011, je me suis trouvé environ vers 2h10. Je suis arrivé à Place Wilson pour la manifestation.
Alors le 17 décembre 2011, c'était un samedi, je m'apprêtais à participer à une manifestation, un soutien aux inculpés de la Bège.
Le 17 décembre 2011, j'étais à Toulouse à une manifestation contre la répression et en soutien aux inculpés de la Bège du 15 novembre.
J'étais à Toulouse, et même précisément sur la place Jean Jaurès, je crois. J'étais là-bas pour la manifestation de soutien aux quatre inculpés.
Où j'étais le samedi 17. Le samedi 17, en fait, premier jour des vacances scolaires et puis les courses de Noël, la ville pleine, et moi j'étais à Jean Jaurès. Alors pourquoi j'étais à Jean Jaurès? Bien sûr pour la manifestation qui fait l'objet de cette émission.
Alors d'abord, la première chose, moi, quand j'y suis allée, c'est que j'ai déjà été contrôlée à l'approche de la manifestation par des gens de la BAC.
Avant même d'arriver sur les lieux.
Ouais, avant même d'arriver sur les lieux. Je n'ai pas été toute seule à avoir été contrôlée. D'autres gens ailleurs dans la ville ont déjà été contrôlés. Et puis, donc, le rassemblement commençait à se former sur la place Jean Jaurès. Et puis, il y a petit à petit à la fois la BAC qui est arrivée en nombre, puisqu'il y avait une quinzaine d'agents de la BAC, plus des gardes mobiles en nombre qui ont peu à peu encerclé la manif. Alors la manif qui n'avait pas encore eu le temps de se montrer comme manifestation. La banderole n'a pas eu le temps, les banderoles n'ont pas eu le temps d'être sorties. Les tracts commençaient à peine à être distribué.
Je pense que au départ c'était pas spécialement visible et puis voilà, sauf quand tous les flics avaient les gendarmes mobiles, RS, la BAC, d'un coup quand ils sont mis à encercler tout le monde et là en fait du coup ça a été visible pour tout le monde. Du coup.
Alors ce rassemblement, on peut dire qu'au début ça s'est pas très très bien passé. Il y avait du monde, ce qui est plutôt positif, mais il y avait aussi beaucoup de flics, des gendarmes, des flics, des baqueux, et on s'est littéralement en fait fait encercler.
J'y suis arrivé un peu après le début, donc je suis arrivé, il y avait toute cette armada qui entourait le groupe de manifestants qui était au centre. Et donc j'ai rejoint les gens qui étaient entour en fait. Parce que finalement il y avait le groupe de manifestants au centre, l'armada autour, et puis nous aussi autour. Enfin nous plus tous les gens qui faisaient leurs courses de Noël quoi. Donc il y avait tout le monde était entouré par tout le monde quelque part. Quoi.
Moi je me demandais vraiment ce que je faisais là, sur cette place coincée là, entre les forces de l'ordre, les commerces. Et les manifestants.
Donc à ce moment-là, moi j'arrive, je vois des casquets partout en ligne et j'ai du mal à voir les gens. Je ne sais pas où sont les gens. Je suis du côté du Quick, du côté du boulevard, quoi. Et je circule, je joue de la trompette, j'essaye d'interpeller, j'essaie d'interpeller les gens qui sont là. Je fais les 100 pas autour de cette espèce de truc complètement dingue, quoi, où on sait pas où sont les gens. Moi je voyais pas où étaient les gens, combien ils étaient, qu'est-ce qui se passait. Je voyais les
les civils, à un moment, devant le cinéma, je vois les civils sortir les matraques télescopiques, et là, je vois que les gens sont là, effectivement. J'essaie de me rapprocher, les casquets nous repoussent, on est quelques-uns, quelques-unes à cet endroit-là. Et puis les gens, j'aperçois un tas de gens là qui se font un peu bousculer, même sévèrement bousculer. Et voilà quoi, j'étais au milieu de ces gens, mi-contemplatif, mi-énervé, mi-scandalisé. Et moi j'étais scandalisé quoi. Je circulais partout en criant mais qu'est-ce qui se passe? Contre qui est la guerre? Qu'est-ce qui se passe? Etc.
Donc je me trouvais au milieu de la place à discuter, c'est à ce moment-là que je les ai vus arriver de part et d'autre, du côté du cinéma et du côté de la FNAC. Toute une rangée en remontant comme ça, et face à nous, des civils, puis un commissaire principal ou un type qui donnait le mouvement, quoi, qui ordonnait une sorte d'encerclement. Donc j'ai dit aux copains avec qui j'étais de... ce serait mieux de sortir, de ne pas se faire prendre, parce que je me disais peut-être qu'ils vont nous embarquer tous pour vérification d'identité, peut-être relever d'ADN, enfin d'empreinte, tout ça, c'est tout ce que je veux par-dessus tout éviter.
C'était assez, ils étaient bien nerveux, ils ont fait une belle démonstration de force, quoi, bien agressif, bien provocateur, bien... Puis bien ridicule aussi en même temps, quoi, dans le truc de sortir le... De dire oui, c'était un contrôle de police, ça faisait vraiment raf. Moi, pendant un moment, je disais ouais, c'est cool, on est venu chercher notre étoile jaune, quoi. Enfin, c'est le genre de truc où tu te retrouves un peu bêtement encerclé par quatre fois plus de policiers que toi tu n'es, tous en armes, en carapace.
En attendant, en train de boire un thé dans le coin, et je me suis retrouvé donc dans cette nasse là à avoir des ponctions réalisées dans le groupe, réalisées par la BAC, comme ça, comme des flashs un peu où ils allaient sortir des personnes du rassemblement pour apparemment donc un simple contrôle d'identité. Ça s'apparente quand même à une espèce de rafle pour un fichage généralisé des gens qui peuvent s'organiser autour de l'anti-répressif. En tout cas, en l'occurrence, c'était ça.
Tu avais ce groupe de 20 civils de la BAC qui, en fait, débouler sur le groupe de manifestants à l'intérieur, choper 2-3, les emmener plus loin pour faire un contrôle d'identité, puis revenaient, et voilà. Donc en fait, il semblait que ce qu'ils avaient décidé de faire, c'est de passer je sais pas combien d'heures, parce que pour choper tout le monde, faire des contrôles d'identité, et puis voilà.
Ça a duré quand même pas mal de temps, puisque les gens qui étaient coincés à l'intérieur du cercle des flics ont été sommés de donner leur identité. Il y a eu un refus collectif. Certaines personnes qui ont été repérées comme étant un peu agitées, ou des mecs hein, surtout, ont été arrachées par les flics pour... bon, en tout cas, qui étaient ciblées par les flics, qui montraient telle ou telle personne, ont été arrachées, ou parce qu'ils bougeaient, parce qu'ils voulaient sortir du cercle, ont été arrachées par les flics et mis à côté. Donc c'était assez bizarre ça, parce qu'on voyait pas très bien ce qu'ils voulaient faire, du coup ils ont dû donner leur identité. En tout cas, il y avait tellement de monde que c'était pas possible pour la police d'emmener les gens en fourgon et d'aller faire des contrôles d'identité au commissariat. Donc ils se sont retrouvés à prendre un certain nombre de gens, quelques personnes, les mettre juste à côté derrière les flics, sachant que tout ça était entouré de plein de gens qui soutenaient un peu les gens qui étaient à l'intérieur. Et puis moi j'étais à l'intérieur, du coup c'était à la fois assez effrayant parce qu'on avait les baqueux qui nous menaçaient et qui on avait vraiment l'impression que c'est des gens à peine retenus et qui peuvent très bien se lancer sur nous avec beaucoup de haine. Bon, moi pour ma part j'ai été insultée, voilà, on sentait que ça pouvait très bien partir très vite dans des rapports assez violents.
J'étais à la fois ouais, par moments j'étais ah ouais, bon, c'est bon, on va tous se faire embarquer, de toute façon ils avaient les moyens de le faire, quoi. Donc je disais bon, ok, qu'est-ce qui va se passer? Puis en même temps, complètement Ouais, un peu sur les spectatives, quoi. Je me demandais vraiment comment ça allait se finir.
Il a voulu sortir, essayant de forcer le cordon. J'ai été pris par deux gardes mobiles et refoulé, rejeté au milieu de la place. Voilà, puis je suis sorti, je gueulais avec d'autres camarades. J'intervenais si je pouvais contre les civils, contre les flics qui étaient là, mais très, très rapidement, quoi, parce que comme il y avait le cordon extérieur, tu étais pris en feu de feu. Bon, voilà. Après ce coup-là, bon, j'ai essayé de sortir d'autres camarades. Ils m'ont tapé deux, trois fois, légèrement. J'ai pas pu répliquer. Enfin, j'ai répliqué, mais très rapidement, quoi. J'ai pas pu. Je préfère leur foutre plutôt que me faire taper. Voilà.
J'étais assez stupéfaite. À la fois, j'avais l'impression d'être... comment ? Je sais pas. Mais j'ai vraiment l'impression d'être au théâtre. Je me demandais vraiment si ce que je vivais, c'était la vraie vie ou si j'étais dans une pièce de théâtre.
Il y a même des gens qui pensaient que c'était un tournage de film, tellement c'était impressionnant.
C'est étonnant parce que genre, c'est mieux que n'importe quelle affiche ou n'importe quel reportage ou n'importe quel pour les gens qui sont dans la rue, quoi. À la rigueur, je pense qu'ils en auraient eu rien à faire. Ils seraient peut-être passés à côté de la manif en regardant comme ça. Mais là, de voir une telle démonstration de force avec autant de violence et autant de... Enfin, c'est tellement disproportionné que je pense qu'il y a peut-être des gens que ça a fait réagir. Et...
J'avais un peu l'impression qu'ils faisaient un exercice dans le réel, quoi. Il y avait vachement des espèces d'officiels. Il y avait un type, on aurait dit le préfet, parce qu'il avait sa casquette avec les palmes académiques dessinées dessus, et qui était effectivement, je crois, le chef de la police. Enfin, le préfet de police, je ne sais pas trop. Et puis tellement de corps répressifs, quoi, de la BAC, des Robocop, enfin bref.
Il attrapait des gens, il les tapait, il les remettait, on comprenait pas trop la logique, sur le moment en tout cas, après on peut se l'expliquer, mais sur le moment on comprenait pas la logique. Donc j'étais j'étais étonné de tant de violence à la vue comme ça. À la vue comme ça en pleine rue, alors c'est sûr, après on se dit mais pourquoi on s'étonne, la place Bellecour à Lyon pendant le mouvement des retraites, ils ont fait la même chose, machin, etc. Mais moi ça m'étonne toujours, si tu veux, cette possibilité qu'a l'État de faire ça.
Moi quand j'ai vu ça, j'avais pas du tout envie d'être coincée. Et donc j'ai réussi. Au début c'était assez flou, ils ont serré les gens, mais ils n'arrivaient pas tout le monde donc à sortir. Mais sans me sentir enfermée. Il y avait quand même une deuxième rangée après de gendarmes. Là, ils essayaient de dire, madame, vous n'avez pas le droit de circuler dans cette zone. Et j'ai dit, mais si, moi, je veux circuler. J'ai dit, d'abord, j'ai besoin de circuler puisque je distribue un tract pour la manif. Alors, il m'a dit, donnez-moi un tract. J'ai dit, non.
Petit à petit, les gens, donc d'autres personnes comme moi, ont réussi à s'extraire du cercle. Petit à petit, surtout, ce qui s'est passé, c'est que les badauds, là, ou les gens qui faisaient leurs courses de Noël, se sont arrêtés quand même pour voir ce qui se passait. Un tel déploiement policier, ça interroge, des gens au sol, ça interroge aussi.
Donc que faire dans une situation comme ça ? Je connaissais facilement 5 ou 6 personnes, donc forcément se faufiler parce que se retrouver en tenaille au milieu de la police, moi c'est quelque chose que je ne supporte pas. Du coup, informer les gens, faire comprendre autour.
Et les gens demandaient qu'est-ce qui se passe. Et à chaque fois je disais, écoutez, moi je peux vous expliquer pourquoi on voulait manifester, mais ils ne veulent pas qu'on manifeste. Et les gens en étaient très intéressés pour prendre le tract d'information qui essayait d'expliquer ce qui se passe, non seulement à Toulouse, mais un petit peu partout ailleurs, c'est-à-dire de mettre en prison systématiquement des militants ou des gens qui ont manifesté, ou des gens qui n'ont rien fait mais qui connaissent, ou des gens qui ont des opinions différentes, et chef d'inculpation, ça c'est leur enquête sur 3 mois. Où justement ils n'ont souvent rien dans le dossier, mais beaucoup de preuves comme quoi on ne pense pas comme eux, ce qui est exact. ça c'est sûr. Et donc, je trouve que j'ai eu un bon accueil. À un moment donné, une dame qui m'a dit « Vous devriez faire attention. Il y a une de vos collègues, elle a arrêté de distribuer les tracts parce qu'elle avait peur d'être attrapée. » Parce qu'il faut dire qu'en plus de ces bleus marines très visibles, il y avait donc les policiers de la BAC qui, eux, sont, pour ceux qui ne les connaissent pas, moins visibles. Mais une fois qu'on les a vus, on les reconnaît bien. Parce qu'eux, ils sont en civil et puis qu'ils se... Et alors, ils essayaient d'attraper des gens individuellement, paraît-il. Donc cette dame me dit « Faites attention, elle a rangé ses tracts. » Mais je dis « Écoutez, si jamais ça, ben, vous avez caressé à côté de moi et les gens quand même, se grouper, comme ça je ne serai pas toute seule. » Et en effet, les gens restaient des personnes d'un certain âge, de tous les âges, même restaient autour de moi, discuter, qu'est-ce qui se passe. Et pas forcément pour me protéger, mais comme je leur avais dit « Vous avez qu'à rester là, comme ça ils ne m'arrêteront pas. » Et en fait, non, ils n'ont pas arrêté, quoi. Ce qui était très important, c'était d'informer tous ces gens de qu'est-ce qui se passe.
Les gens étaient assez en colère contre leur méthode d'action. Et était assez en colère contre les méthodes d'action. À un moment, j'ai d'ailleurs vu une vieille dame, là, plutôt bourgeoise, qui s'indignait de leur méthode, de comment ils avaient attrapé une fille pour la traîner par terre et de ce qu'on faisait avec nos impôts.
Après, ce qu'on ressent, c'est aussi les effets de ce monde. Donc, une individualisation qui rend les gens tout seuls, un peu individualistes, donc ils sont offusqués quand tu parles à deux ou trois, et dès qu'il y a un groupe de plus de 5-10, ben, qui ont tendance à partir, qui sont pas qui savent pas quoi faire, enfin qui sont pas en tout cas dans un on se met autour. Bon, mais enfin en arrivant à agiter un petit peu les gens, ça faisait voilà quoi. Non, les gens étaient choqués et outrés et remontaient beaucoup cette saturation de la présence policière en particulier à Toulouse. Toulouse, les gens, ils en ont marre de voir des flics partout, ils en ont marre. Ça dure depuis 3 mois, c'est hyper intense, avec cette histoire de tranquillité et puis de réguler l'espace public. Donc les gens, ils en ont marre, des flics partout. Bon.
Et donc, voyant ça, à un moment, on s'est dit, bon, qu'est-ce que nous, on peut faire, quoi, de l'extérieur? Il y a eu un petit mouvement qui a été créé et qui a permis d'ouvrir un peu la barrière des flics, quoi, et de faire sortir un certain nombre de personnes. Suite à ce mouvement, ça s'est mis à castonner, c'est-à-dire que les flics se sont sentis débordés, dépassés. Et donc c'est là où j'ai vu vraiment un gars, parce qu'effectivement c'était violent, mais c'était surtout violent, je pense, dans le visuel. Enfin bon, pour ceux qui étaient à l'intérieur, je pense que c'était plus que visuel, parce que quand les baqueux ils débarquaient pour les choper, bon là ils y allaient avec la matraque télescopique, quoi. Mais le moment violent, c'est quand il y a eu ce mouvement un peu là qui a permis à un moment de casser la barrière des flics et de faire sortir un certain nombre de personnes. C'est que, du coup, donc ils se sont sentis dépassés et là ils se sont mis un peu à taper dans tous les sens. Effectivement, il y a un gars qui s'est retrouvé au sol et il commençait à se faire castagner juste devant le cinéma là. Et d'ailleurs, c'est juste après ça que finalement, dans les 10 minutes après, les flics sont partis. Je pense que ce qui a dû se passer, c'est que ils ont dû commencer à considérer que le prix à payer de ce qu'ils voulaient faire commençait à être trop élevé.
Le truc étonnant, c'est que, encore étonnant, c'est que à un moment, les casquets s'en vont. Après que, par un joli mouvement collectif, les gens qui étaient enfermés arrivent à se libérer quand même, ils arrivent à sortir de cette nasse-là, et les casquets s'en vont. Bon, on a perdu, on y va. Ce qui est quand même étonnant.
En plus, ça devait être après assez compliqué pour eux, parce que mine de rien, il y avait plusieurs corps et plusieurs chefs, et que même s'il y avait le chef des chefs, ils avaient l'air un peu paumés.
Leur idée à eux, visiblement, était d'empêcher la manifestation de continuer, de se poursuivre, mais ça n'a pas fonctionné. Les gens étaient déterminés et ont réussi à se regrouper plus loin pour continuer.
Et voilà, on a réussi à faire la manif au final, quoi. On s'est refait bloquer, finalement on s'est filé un second rencard vers le Capitole. On a failli se faire prendre la banderole à un moment. Finalement, on l'a gardée par un concours de circonstances. En fait, on a lâché la banderole pour pas se faire encore une fois encercler, etc. La banderole avait été gardée par trois personnes qui étaient là, que je connaissais vaguement, que j'ai vu sur des rassemblements divers et variés, mais que je connais pas personnellement, et qui sont en tout cas qui font pas partie du collectif, qui nous avait gardé la banderole, qui l'avait un peu arraché aux flics, qui de toute façon savait pas trop quoi faire de ce truc là quoi. N'avait pas d'ordre clair visiblement. Et donc on récupère la banderole, on la plie, on la mène au Capitole, on la ressort et on refait une manif quoi. Donc deuxième manif une demi-heure après.
Donc à partir de là, il y a eu tout un temps un peu de chat et de souris autour de la place Jean Jaurès là, enfin du parc Gaudeline puis nous ici on trouve une stratégie sur qu'est-ce qu'on fait ensuite. Et tout ça a amené effectivement à cette déambulation sauvage là qui nous a amené jusqu'au marché de Noël. Où là ils se sont retrouvés comme des cons quoi en fait hein, les flics quoi, parce que évidemment on s'est retrouvés je pense chose qu'ils voulaient surtout pas, mais c'est bien à ça qu'ils nous ont amenés. On s'est retrouvés dans le marché de Noël et là ils pouvaient plus rien faire.
Et après du coup on est allé au marché de Noël et ça m'a fait plaisir quoi, parce que c'était moins stressant, moins oppressant et plus intéressant je trouvais aussi, parce que là du coup c'était eux qui étaient complètement pris au piège d'un truc où ils pouvaient plus, absolument plus intervenir.
Alors là en plus des gens, place du Capitole, la place du Capitole est encombrée, vraiment encombrée par des petites maisonnettes, mais vous en avez aux Champs-Élysées à Paris, vous en avez partout, qui sont des petites baraques de commerce, de nourriture à 99%, où on vous vend le fromage du Cantal ou je ne sais quoi, et c'est le marché de Noël, ils appellent ça. Et ça fait comme des petites, un petit village, de toutes petites rues étroites. Et là, tout le monde s'est retrouvé. Puis ils ont fait, comme ce petit village, il a été pensé sûrement par quelqu'un, il a fait une petite zone centrale, comme le centre du village. Et bien là, c'était l'endroit idéal pour se retrouver et sortir les slogans et les banderoles. Il faut dire que là, les policiers, ceux qu'on avait vus tout à l'heure, qui étaient très armés, ne sont pas arrivés là. Par contre, il y avait cette BAC là, ces flics en civil. Très armés, mais vraiment, ils avaient les yeux très très méchants. Ils n'étaient pas du tout contents.
Donc on fait un petit tour quand même sur la place du Capitole avec les banderoles, un joyeux cortège, des chants, jusqu'à s'installer donc sur le cœur de la place. Là on débutait des prises de parole, des chants, beaucoup de chansons, et donc tout de même une petite satisfaction d'avoir mené cette action jusqu'au bout.
On fait revenir le matériel donc on avait prévu, des pancartes où était écrit non à l'EPM, PJ en boxon, Noël en prison, etc. Toute une série de slogans comme ça qu'on accroche et on passe à un moment en lisant des textes et en ce qu'on voulait faire au départ, c'est-à-dire ce qu'on voulait faire, cette manifestation, elle était là pour informer, faire voir cette situation de personnes incarcérées suite pour soupçonner d'avoir participé à une action politique contre les établissements pénitentiaires pour mineurs.
Il y avait des clowns dans les manifestants. Il y avait un clown qui d'abord avait un grand drapeau bleu, blanc, rouge comme cap. Je lui ai demandé pourquoi il avait ça. Et il m'a répondu, mais moi, madame, je fais partie de la gendarmerie nationale. Et en effet, ce petit clown avec son nez rouge s'adressait aux gens de la BAC, là, à ces flics. Et il disait aux manifestants, mais arrêtez vos slogans, messieurs les policiers veulent écouter la musique. Mais arrêtez vos slogans débiles. Et vraiment, il narguait les... Et j'avoue, j'étais un peu inquiète parce que quand on voyait... vraiment la tête qu'ils avaient, je dis pourvu qu'ils ne savent pas de l'attraper par énervement.
Et ça a été plutôt marrant, c'était marrant parce que en fait on est arrivé là-dedans, il y avait un groupe là de musique, on a réussi à les embarquer avec nous, donc ils ont joué de la musique pour nous jusqu'à un moment où ils ont dû comprendre que qu'il y avait quelque chose de bon, ils devaient pas être forcément à leur place, donc ils sont repartis ailleurs. Et donc là nous on est restés et il y a eu cette étape là sympa où il y avait les châssiers qui a accroché les pancartes là sur le sujet quoi, donc par rapport aux établissements pour mineurs et puis à la répression aux structures en fer.
le joyeux charivari de la place du Capitole au milieu du marché de Noël, c'était plaisant. Et puis, ça cassait aussi cette image un peu de les gros guerriers, enfin, du Black Bloc classique. Je caricature, bien sûr, mais bon, et dans le sud, on caricature et ça fait mieux comprendre les traits.
Là, on a pu dire ce qu'on avait à dire à la fois sur l'affaire récente de l'arrestation de 4 personnes, du contrôle judiciaire d'une autre, de la mise au témoin assisté d'une autre personne pour l'action du 5 juillet contre les prisons pour mineurs, et un certain nombre de paroles, de prises de parole sur la répression qui s'étend actuellement à toute une série de gens et qui restreint un peu nos vies et nous impose de marcher droit. Du coup, voilà, peut-être on s'est dit que la manifestation, elle avait un peu repris de l'allure parce qu'on a pu terminer comme ça, à la fois en disant ce qu'on avait à dire, à la fois parce qu'on s'est retrouvés au même endroit et parce qu'il n'y a pas eu d'arrestation, et pas de suite grave pour quiconque, quoi.
C'est quand même au début de faire ramasser la gueule par les flics, quoi. Après c'était sympa, mais.
À ce moment d'impuissance où on se retrouve quand un moment il y a les casquets et puis t'es là, on va rien pouvoir faire, on peut rien faire, on peut plus rien faire, de toute façon on peut plus rien faire, on se retrouve dans une situation où finalement si, on peut faire ce qu'on veut, mais en même temps avec ce sentiment mi-figue mi-raisin que au final il a fallu qu'on s'enferme au milieu des chalets, c'est-à-dire qu'on était très peu visible, qu'on s'est fait choper quelques centaines de tracts qu'on n'a pas pu diffuser.
Seulement, les gens, il y avait beaucoup de monde quand même sur cette place du Capitole. Et moi, j'ai quand même pas vraiment l'impression qu'on ait pu échanger avec les gens présents sur cette place de ce que c'était que la présence policière dans la ville, la répression, les inculpations, enfin de tous les problèmes qu'on peut rencontrer autour de la répression. Il nous restait plus de tracts. Les gens, eux, étaient les gens présents sur cette place, donc les badauds qui faisaient leur course, ça ferait plutôt pour Noël. Très très peu, je crois, se sont arrêtés pour discuter avec nous de ce qui se passait, du pourquoi on était là, et puis aussi parce que je crois que l'État, le pouvoir en place, a tout de même réussi à nous diviser, à nous mettre chacun dans nos coins. Une centaine de personnes sur la ville à manifester contre la répression, ça représente finalement très très peu de monde.
Je pense que la répression policière est telle que ça donne pas envie aux gens de venir à ces rassemblements et à ces manifestations, parce que c'est tout de suite réprimé en fait.
Donc pourquoi il y a eu cette présence policière ? C'était aussi pour faire peur. C'était aussi pour démarquer en disant voilà, là, quand tu encercles des gens, d'un côté t'as les méchants et d'autre côté t'as les gentils. Hein? Donc c'est aussi pour marquer le pas, faire peur à ceux qui viendraient un peu soutenir.
Donc moi j'étais pas réellement étonné. À la fois je pensais que peut-être j'aurais pu manifester, mais à la fois j'étais pas étonné parce qu'il y a quand même une histoire toulousaine. Et il y a un peu moins de 2 ans était organisée une manifestation contre les longues peines et contre l'isolement. Et la police nous a empêchés de manifester, nous a détournés vers l'extérieur, elle nous a pas matraqué cette fois-là, mais en gros, si on avait voulu manifester vers le centre-ville, elle nous aurait matraqué, effectivement, comme elle l'a fait cette fois-ci.
Peut-être le dernier point, c'est que je pense que c'est intéressant de voir le déploiement de force, parce que, à mon sens, c'est vraiment un critère d'évaluation de quand est-ce qu'on les gêne et quand est-ce qu'on les gêne pas. Voilà. Effectivement, quand il y a un tel déploiement de force, ça veut dire qu'on vient toucher des choses sensibles. Et là aussi, je pense que c'est intéressant de réfléchir à ça. Et je le pense relativement à d'autres espaces de lutte dans lesquels je suis, où il y a des fois où je me dis on les fait pas chier du tout en fait quoi. Tout ça, ça les dérange pas trop. Et je pense que ce critère du déploiement des forces et de leur violence en face est un critère. Quoi.
Je pense que c'est une vitrine posée à un moment donné, cette logique policière qui s'installe à un moment sur une place. Puis après, faut pas oublier que on a un préfet qui vient, qui était le bras droit de Guerre, qui est descendu, je crois, en juin. Il se la pète aussi, répressif, etc. Et puis on a un maire qui veut la tranquillité à Toulouse. Ah, et puis en plus, c'est pas lui, c'est le préfet qui décide. Donc on est aussi dans cette espèce d'entre-deux, de politique locale. Je crois que c'est complexe, tous ces phénomènes-là, hein, par rapport à. Voilà, autour de la justice, la police, la lutte collective, la répression par rapport à ça, qui tire les ficelles, enfin, qui va avoir plus de pouvoir pour. C'est complexe.
Ils ne veulent pas que les qu'on parle des quatre emprisonnés. Ils ne veulent pas qu'on parle de leur répression, ils ne veulent pas qu'on parle de leur. Enfin, de tout ce qu'on haït, quoi, tout ce qu'on ne peut pas accepter, quoi. C'est pour ça qu'ils. De leur système, ils veulent pas qu'on parle de système économique, de rien, ils veulent qu'on, voilà, qu'on se lève et qu'on soit et transparent, inexistant. Voilà. Notre existence même les gêne.
On est tête dure et on veut le faire et on le fait. Ça, je pense, voilà, ça fait partie de ça. Et puis, on ne tombe pas dans leur piège de commencer à leur jeter des cailloux et à se cacher dans un coin.
Un bon souvenir de se faire gueuler dessus, insulter et tabasser par des flics, quoi. Ça peut pas être un bon souvenir, mais en même temps, voilà, je pense que ça avait une certaine utilité dans le fait que c'était une autre démonstration de leur exagération d'un état policier.
On n'était pas à la taille du dispositif, on n'est pas battu pour autant. Ils étaient plus nombreux que nous, mais c'est pas impressionnant. Si on est aussi nombreux, si on est plus nombreux qu'eux.
Ça pose le problème de l'avenir et de entre guillemets, de notre droit à manifester à Toulouse sans passer par une déclaration officielle auprès de la préfecture, etc. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Comment on va continuer à demander la liberté de ces gens et comment on va continuer à manifester sur d'autres sujets sans pour cela demander l'autorisation?
Il ne faut pas se taire, quoi. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Hein.
Voilà, 17 décembre 2011, donc un moment particulier. Depuis cet épisode, il y en a eu des manifs qui ont été plus ou moins réprimés. Mais c'est clair que maintenant, la BAC nous sert de près, quoi qu'il arrive, et que la confrontation avec la police est certaine. Seule son intensité va varier. Qu'est-ce qu'ils vont nous empêcher de faire? Est-ce qu'ils vont être violents ou pas? Mais en tout cas, on a vu se développer massivement une violence d'État, notamment autour de la lutte autour du barrage du Testé et suite à la mort de ce jeune manifestant, Rémi Fraisse, qui avait été donc abattu par une grenade de la gendarmerie et par un gendarme, donc, qui est depuis, évidemment, a eu un non-lieu dans cette affaire. Mais il y a eu quand même toute une série de manifestations, hein, toute une série de samedis où on a tenté de manifester, où on a manifesté, où c'est renouvelé finalement ce scénario-là d'une grosse présence policière qui cherche à séparer des personnes du reste de la population, qui rend dangereux le fait de vouloir manifester. Et on en était arrivé quand même à la fin, en plus avec des condamnations assez lourdes, 6 personnes ont été incarcérés hein, suite à ces manifestations. On a compté 47 mois de ferme, 34 mois de sursis, 860 heures de tige, plus de 5000 euros d'amende, 10 450 euros de dommages à intérêts pour les flics, etc., etc. C'était 68 personnes qui avaient en tout été arrêtées sur l'ensemble des manifestations à Toulouse. Et à cela, il fallait rajouter en plus ce qui s'était passé dans le Tarn, pareil en novembre-décembre 2014. Donc avec au moins 41 inculpations. Alors en plus, bon, c'est un moment qui, en tout cas à Toulouse, parce que c'est Toulouse dont on parle, marque quand même un tournant, c'est-à-dire ils ont pu se lâcher dans les rues, ils ont pu attaquer des manifestations avec une grosse séparation notamment des syndicats qu'on a vu avec la manif du 22 novembre contre les violences policières, où les syndicats et partis politiques ont décidé de faire une manifestation le matin contre l'appel autonome qui avait lieu l'après-midi. Ils étaient 200, ou ça entre 200 et 500 manifestés dans le calme et avec l'autorisation du préfet. Et pourtant, il y avait 2000 personnes l'après-midi sans autorisation, entourées par les flics qui manifestaient. Et cette séparation-là, elle a peut-être un peu éclaté pendant la loi travail, mais elle reste présente. Et comme c'est dit dans le petit sujet, là, on voit vraiment cette difficulté de comment est-ce qu'on fait pour protester, comment est-ce qu'on fait pour continuer. Et juste après les manifestations et juste après la mort de Rémi Fraisse, le député vert Noël Mamère avait organisé une commission parlementaire sur le rôle des forces de l'ordre dans la répression et sur ce fameux droit de manifester. Et bien déjà, ce qui en était sorti, et Noël Mamère avait même démissionné, c'est pour dire, c'était plus une optique de renforcement des pouvoirs de la police, dont la fameuse interdiction de manifester qui s'est généralisée pendant le mouvement contre le travail, c'est-à-dire qui venait déjà là, et qui a été finalement puisé dans l'état d'urgence, mais qui était en préparation, quoi, ce qui avait déjà été justifié, notamment par des parlementaires socialistes. Et bien sûr, la figure du casseur, qui vient justifier tout un tas de dispositifs législatifs et policiers. Amnesty International, dans son rapport, ne dit pas autre chose en envoyant dos à dos la violence de la police et la violence contre la police, mais tout cela pour des manifestations paisibles.
Quand on organise une manifestation, elle doit être encadrée, organisée, maîtrisée, et à l'évidence, aujourd'hui, cette organisation et cette maîtrise n'existent pas, et nous l'avons vu tout au long de ces dernières heures, il y a des groupes qui viennent manifester uniquement pour en découdre vis-à-vis des forces de l'ordre. Donc j'attends la plus ferme condamnation de tous à l'égard de ces violences.
Dans ces moments-là, il y a toujours, de la part du chef de l'État, du Premier ministre, du gouvernement, de moi-même au moment où je suis, une condamnation absolument sans faille de toutes les violences, et notamment là, des violences dans la rue, contre les policiers, ceux qui étaient, ceux qui sont toujours les héros de la République.
Non, écoutez, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Quand vous avez, si vous avez 50 000 manifestants ou 500 000 manifestants en France et vous avez quelques centaines de casseurs, il faut évidemment tout faire pour y mettre fin, mieux contrôler, mais on ne peut pas associer, on ne peut pas confondre quelques centaines de casseurs et des dizaines de milliers de manifestants.
Il y a une instrumentalisation par des casseurs qui font du mal, bien sûr, aux forces de l'ordre, y compris physiquement, mais aussi au mouvement lui-même. Et moi, je souhaite que tout le monde condamne ces violences, pour que les manifestations puissent avoir lieu de manière paisible.
Voilà. Donc, on a d'un côté une légitimation finalement massive de l'action des forces de l'ordre, qu'on demande simplement de respecter certains cadres, et finalement la peur de s'en prendre plein la gueule pour pas un rond. Donc, tout ça rend compliqué le fait de manifester, le fait d'organiser, le fait de se poser calmement à savoir quoi faire, et on assiste à des scènes complètement délirantes dans les manifestations. Celle-là, c'est la loi travail. Alors juste de la contextualiser un peu, il y a un cortège nuit debout et il y a des personnes qui commencent à allonger ce cortège avec une banderole renforcée, c'est-à-dire avec des morceaux de bois, une banderole qui est capable de tenir un petit peu une charge, et qui en gros commence à émettre la proposition de sortir du cortège. Sans vraiment les mettre de manière verbale, sans aller discuter avec les gens, ce qui peut poser problème. Mais en tout cas, c'est assez visible, suffisamment visible pour qu'il soit interpellé par un des organisateurs qui fait ce discours-là au mégaphone.
Maintenant, on voulait donner une autre information qui concerne la manifestation. Il y a des gens dans le cortège qui veulent partir en manifestation sauvage. Il est tout à fait possible que chacun soit libre de le faire. On ne voulait pas que les gens se retrouvent embarqués dans quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Donc simplement, sachez-le, si vous avez envie, il est possible de quitter le cortège et de partir en manif sauvage. Ça veut dire probablement se confronter avec la police, et ça veut dire s'être confrontation-là, il faut y être prêt. Ou alors on continue le cortège, on propose à chacun de décider en son âme et conscience pour ne pas qu'on embarque des gens contre leur avis. Voilà, c'était pour être transparent. À partir de là, on peut reprendre la manifestation.
Voilà, donc vraiment neutralisation de la puissance de la manifestation, tout se joue là. Alors bien sûr, faut pas fétichiser des pratiques d'affrontement et de manifs dites sauvages, qui ont souvent été pendant le travail des courses dans la ville sans but et sans autre intérêt que l'adrénaline. Et pourquoi pas, tant mieux. Mais on peut pas confondre ça avec un label de radicalité de la confrontation. Mais la peur de la police prend le pas. La peur prend le pas et elle est distillée par des organisateurs même. Et plutôt que de se poser la question du comment faire, on tente tant bien que mal d'éviter la répression à tout prix en restant en deçà de toute conflictualité. Et finalement, la plupart des actions réalisées ici à Toulouse autour de Nuit Debout par le groupe On Lâche Rien ont été de cet acabit. Des actions bien préparées, efficaces, certes, pour des objectifs finalement assez flous et surtout sans réelle confrontation. Au final, pas très différent que les manifs sauvages, c'est-à-dire simplement on occupe un lieu, très peu de temps, on repart, on fait une photo, on s'en va, merci. C'est le symbolique qui prend le pas sur l'action directe. D'un autre côté, là, une certaine radicalité, c'est, je l'ai déjà dit, c'est peut-être enfermé dans une fixette anti-police qui ne va pas forcément porter grand chose, et donc au final on se retrouve avec la police et la répression qui deviennent centrales et mettent à distance les bénéficiaires de l'ordre qu'elles protègent, ce qui est finalement leur rôle, non ? Voilà, Brasero, c'est fini pour aujourd'hui. Petite balade dans des manifestations, petite réflexion en passant. On continue l'été, peut-être la semaine prochaine. Il y aura du Brasero, il y aura de la rediffusion. C'est fini pour les directs et pour les créations originales. Pour la suite en septembre, parce que finalement l'été sera chaud et la rentrée aussi, ou pas ?
Peut-être. Et on causera violence policière le 19 juillet toute la journée sur Canal Sud.
Waouh, super!
Super, hein?
C'est quand même un an de la mort d'Adama Traoré.
Et oui,
voilà, qui justifie où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. 10 heures pour décortiquer tout ça et puis continuer à gueuler de là où on est et de là où on fait des choses.
Allez, bonne soirée.